Bonjour à toutes et à tous les amis de Radio Primitive. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la bibliothèque Carnegie à Reims pour une chouette exposition historique. Le bonheur public, vivre à Reims au siècle des Lumières. Du 25 avril 2026 au 1er août. Une chouette activité en plus à faire pour passer un bel été à Reims. Nous allons donc déambuler ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes pour cette visite commentée. Et j'ai donc l'immense honneur de laisser la parole à Monsieur Nicolas Gallo, conservateur général des bibliothèques, directeur de la bibliothèque Carnegie, chargé de recherche et de mise en valeur du patrimoine écrit de la ville de Reims.
Nous présentons deux expositions par an, essentiellement à partir de nos collections pour les mettre en valeur, une au premier semestre, une au deuxième semestre. Et donc pour l'exposition du printemps 2026, nous avons retenu la thématique des évolutions urbaines qu'a connue la ville de Reims au XVIIIe siècle, donc en gros de 1715 à la Révolution française environ. Donc qui est une période de mutation importante à Reims, mais aussi dans les autres villes françaises, avec des transformations qui se voient encore aujourd'hui pour certaines d'entre elles. Donc l'exposition s'intitule « Le bonheur public, vivre à Reims au XVIIIe siècle ». Le bonheur public, ça fait référence un petit peu à l'esprit des Lumières, du mouvement des Lumières, donc qui souhaitait promouvoir le bonheur de l'individu, son épanouissement, le développement de l'éducation, de la science, l'amélioration des conditions de vie, qui sont des thématiques très fortes à cette époque-là et qui font encore écho avec la période actuelle. C'est ça aussi qui nous a intéressés. C'était de montrer que finalement les débats, les grands enjeux de la ville, les enjeux urbains de cette époque-là sont encore des thématiques qui traversent aujourd'hui encore la vie de la cité et le débat public. Améliorer la qualité de la vie, renforcer la sécurité, la salubrité, permettre aux gens d'accéder à des espaces verts, à une meilleure qualité de vie, à une éducation renforcée, au savoir, au développement économique. Finalement, ce sont des thèmes très très actuels et c'est un peu ce qui transparaît dans l'exposition et qu'on a voulu mettre en perspective historique. Alors, le sujet de l'exposition nous a été proposé par des universitaires rémois, Jean-Louis Aquette, notamment, qui est professeur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, Françoise Gevray, qui a travaillé sur un des personnages importants de cette époque-là, Louis-Jean Lévesque de Pouilly, qui était philosophe, intellectuel, avocat, et qui a aussi été lieutenant des habitants de la ville, de 1750 à 1754, le lieutenant des habitants, c'est l'équivalent de maire aujourd'hui, hein. Et c'est notamment lui qui a mis en chantier la création de la place royale à Reims, qui a permis de restructurer une partie du centre-ville de Reims. Et puis deux universitaires québécois aussi qui travaillent en partenariat au sein d'un même centre de recherche avec l'Université de Reims nous ont également assisté dans la conception et la réalisation de cette exposition, M. Bernier et Mme Dehabre. Voilà pour citer un petit peu les promoteurs de l'exposition. Donc l'exposition aborde un peu les différentes réalisations de l'époque, donc les évolutions de la ville, ses différents aménagements, mais aussi la vie intellectuelle et la diffusion un petit peu de l'esprit des Lumières, des philosophes du XVIIIe siècle. Alors il faut peut-être revenir un peu sur la façon dont comment se présentait Reims à cette époque-là. Donc au milieu du 18e siècle, Reims compte environ 27 000 habitants. C'est à peu près la population qu'elle a au moment de la Révolution française, 27-28 000 habitants. Et la ville est encore enserrée dans ses remparts médiévaux. Donc c'est une ville close qui est donc entourée de remparts. Ces remparts ne seront démantelés qu'au milieu du 19e siècle. Hein, ils ont disparu aujourd'hui en totalité. Il reste uniquement la porte Mars, qui en fait est un monument gallo-romain, bien sûr, bien antérieur, mais qui avait été inséré dans le rempart et donc qui a de ce fait été préservé. Mais tous les autres éléments des remparts de la ville ont disparu, il ne nous en reste que des gravures, des dessins et des représentations graphiques. La grande période de l'expansion urbaine de Reims, comme des villes en France en général, c'est le 19e siècle. Ça correspond à l'industrialisation de la ville, à l'arrivée du chemin de fer, au développement des transports, des échanges et de l'industrie, en particulier l'industrie textile qui a été très importante à Reims. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, Reims compte plus de 110 000 habitants, donc la population est multipliée par 4. Durant le 19e siècle, ce qui est assez remarquable et ce qui a expliqué donc le développement des faubourgs et puis donc la disparition des remparts qui était un frein justement au développement urbain. Donc la ville est enserrée dans des remparts, elle est relativement dense avec des rues étroites. Comme toutes les villes de cette époque-là, elle était relativement sale, insalubre, avec des problèmes de sécurité. Il n'y avait pas d'égout, en tout cas il ne fonctionnait pas bien, pas d'éclairage public, pas d'eau courante, des animaux qui divaguaient, un air vicié, pas très sain, un habitat pas toujours en bon état. Et donc les enjeux au 18e siècle, c'est les enjeux publics, c'est d'essayer de développer, d'améliorer la qualité de vie des habitants, et puis d'essayer donc de moderniser un petit peu le cadre de vie et de le sécuriser. Donc un règlement de police assez complet, de plus de 100 articles, est adopté par le conseil de ville au début 18e, en 1717. Donc qui entend régir un petit peu de manière un peu plus précise, disons la vie des habitants, donc en interdisant par exemple de jeter par les fenêtres les urines, les eaux usées, les boues, réglementant l'élevage des animaux, et puis en renforçant un petit peu la sécurité publique. Donc ça, c'est un premier pas. Et puis un certain nombre d'aménagements urbains sont entrepris. En particulier, donc, la création des promenades, qui existent toujours aujourd'hui, hein, et qui ont à peu près la même configuration qu'au XVIIIe siècle, donc avec des allées qui vont depuis la Porte Mars jusqu'à la Velle, la Patte d'Oie, le canal actuel, hein, avec donc une forme de patte d'oie sur la fin qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est l'aménagement de ces promenades démarre en 1731 et dure une dizaine d'années. Les promenades sont aménagées à l'extérieur du rempart, hein, donc on est en dehors de l'enceinte. Une nouvelle porte est créée pour permettre d'y accéder facilement depuis la place de la Couture, qui est l'ancien nom de la place d'Erlon, mais qui avait déjà cette configuration-là. Donc une porte grillagée, porte neuve est créée, par laquelle entreront les rois au moment des sacres Louis XV et Louis XVI, qui est une porte un peu monumentale et prestigieuse. Et donc ces promenades ont pour but de permettre aux habitants rémois de pouvoir accéder à un espace avec un air sain, de profiter de la nature aux portes de la ville, et donc d'améliorer la qualité de vie. C'était déjà à l'époque un lieu de déambulation, un lieu de loisirs, de sociabilité, où les gens se rencontraient et pouvaient se détendre. Donc ce qui est remarquable, c'est que ces promenades, finalement, ont marqué une étape importante de l'aménagement urbain et sont toujours existantes deux siècles après. Elles ont même été réhabilitées récemment et sont redevenues vraiment un des poumons verts de la ville de Reims. Une autre évolution très importante qui a transformé vraiment la vie des habitants, c'est la création de fontaines publiques pour amener l'eau courante au cœur de la ville. Puisqu'avant, dans les siècles précédents, et jusqu'à donc dans les années 1730-1740, pour pouvoir avoir de l'eau, il fallait soit aller dans des puits qui existaient parfois dans certaines cours, mais tout le monde n'y avait pas accès, ou bien aller à la rivière, à la Velle, où l'eau n'était pas forcément toujours très, très saine et très potable. Donc une des grandes créations de cette époque, c'est donc la création de fontaines publiques, alimentées depuis un château d'eau créé à l'est de la ville, en amont, donc à partir d'un bras de la Velle, où l'eau était de meilleure qualité, donc avec la création d'un château d'eau qui est dû au père Ferry, qui était à la fois un religieux et un scientifique, un mathématicien, donc qui a créé une machinerie et un château d'eau qui est toujours visible aujourd'hui. C'est ça qui est remarquable aussi, c'est que cette tour Ferry, qui est rue de Tessy, est toujours visible dans sa configuration presque d'époque. Elle a été préservée, elle n'est plus en fonctionnement aujourd'hui, mais elle a été préservée. Donc c'est il y avait un système de roues à aubes qui pompait l'eau de la Velle, qui la faisait monter dans un réservoir, donc au sommet de la tour, donc le principe du château d'eau, et ensuite donc l'eau redescendait par gravité, et avec la pression de la redescente, elle pouvait se répandre dans plusieurs kilomètres de canalisations en plomb qui ont été créées à cette époque-là et qui ont irrigué les principaux quartiers de la ville, en passant par l'équivalent aujourd'hui par la rue du Barbâtre, qui avait un autre nom mais qui était à peu près la même, et puis par l'axe Champs-y-Gambetta, par la voie des Sacres également. Et donc 18 fontaines ont été créées, fontaines publiques dans la ville, pour permettre aux habitants d'aller plus facilement s'approvisionner. Et la création de ces fontaines a été rendue possible grâce à la philanthropie d'un personnage important, qui est le chanoine Jean Godinot, dont la mémoire persiste encore aujourd'hui. Il y a une place Godinot à Reims, avec une fontaine, mais qui n'est pas de l'époque, qui date du 19e siècle, qui a été créée vers 1850, justement pour rendre hommage au chanoine Godinot et à sa philanthropie. Et puis, il y a également le centre régional de lutte contre le cancer, qui est l'Institut Godinot, puisque une autre de ces actions bienveillantes est la création d'un hôpital dédié aux malades du cancer, qui passe pour être le premier hôpital mondial spécialisé dans le traitement du cancer, donc qu'a financé donc le chanoine Godinot. Donc c'était un personnage très important, donc qui a été chanoine de Reims, donc qui a assisté l'évêque dans l'administration du diocèse. Il a été démis de ses fonctions pour déviance religieuse, et il s'est consacré ensuite à la culture de la vigne. En fait, il a fait fortune dans la culture de la vigne, donc c'était un des pionniers de l'élaboration du vin de Champagne. Et sa fortune, il l'a mise à disposition très largement de la ville de Reims et de ses habitants, puisqu'il a donné l'essentiel de sa fortune à la ville pour financer un certain nombre d'opérations. Donc les fontaines publiques, il en reste encore aujourd'hui deux visibles. L'une, la fontaine des Boucheries, qu'on peut apercevoir dans des dessins qui sont présentés dans l'exposition, qui se trouve aujourd'hui en haut du cours Langlais, qui a été déplacé plusieurs fois, notamment récemment pour créer la ligne de tramway, mais qui est toujours visible dans sa configuration de départ, presque inchangée. Et puis la fontaine des Carmes, justement rue du Barbâtre, qui est un peu moins visible parce qu'elle est enserrée dans un bâtiment. Mais il reste quelques témoins de cette époque très importante. Donc ça, c'est une étape vraiment décisive dans l'assainissement de la ville et dans l'amélioration de l'hygiène publique, que la création de ces fontaines qui ont une histoire tout à fait particulière. Et Reims était une ville pionnière dans ce domaine-là, puisque le père Ferry a ensuite créé d'autres châteaux d'eau dans d'autres villes françaises sur le modèle de ce château d'eau rémois. Une autre transformation très très importante et qui est encore toujours visible, qui marque le paysage rémois, c'est la création de la place royale. Alors, donc ça, c'est sous l'impulsion de l'évêque de Pouilly, à partir de 1750, que cette place est mise en chantier. Elle est due à un architecte important, architecte du roi, qui s'appelle Jean-Baptiste Legendre. Son aménagement a duré très longtemps, puisque en fait elle n'a été véritablement achevée qu'en 1910, avec la dernière partie de la place qui correspond à la Société Générale actuelle, voilà. Donc qui est, elle, beaucoup plus tardive. Mais donc cette place royale qui s'inscrit dans un mouvement aussi de création de place royale dans d'autres villes en France, hein, c'est contemporain de la place de la Concorde à Paris, par exemple, ou de la place Stanislas à Nancy. Voilà, donc il y a un mouvement de création de place royale pour embellir les villes, aussi offrir des espaces ouverts, de prestige, d'apparat, mais aussi permettant le développement du commerce, hein, puisque ça permettait aussi d'accueillir des marchés sur cet espace urbain dégagé. Donc ça contribuait vraiment à l'embellissement de la ville et à son aménagement. Avant la place royale, il y avait un vieux quartier, le quartier du Grand Credo, donc où il y avait un certain nombre de maisons et de rues très étroites médiévales, donc qui ont été les maisons ont été expropriées, donc le quartier a été rasé pour créer la place royale. Et donc au centre de cette place trône une imposante statue de Louis XV, qui est très intéressante à la fois. Sur le plan esthétique, hein, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste Pigalle, un grand sculpteur extrêmement réputé. Elle est très très symbolique puisque on voit donc sur une colonne une grande statue de Louis XV, le roi bien-aimé, hein, c'était son surnom, donc roi bienveillant, protecteur, donc qui est en habit romain, en habit d'empereur romain, qui tend le bras pour protéger le peuple. Et au pied du roi Louis XV, deux statues, deux allégories représentent l'une le citoyen heureux. Donc on voit un personnage qui est assis et qui semble jouir de sa situation, avec à ses pieds une bourse avec des pièces et puis diverses victuailles. Donc on montre ainsi qu'il est qu'il jouit d'une condition agréable. Puis de l'autre côté, donc une sculpture féminine qui symbolise le bon gouvernement. Donc cette sculpture, cette femme tient dans une main un gouvernail, donc pour symboliser le fait que le gouvernement tient le cap et va dans le bon sens. Et de l'autre côté, elle tient la crinière d'un lion. Le lion symbolise le peuple, et donc il se laisse guider de manière bienveillante et confiante par le bon gouvernement. Voilà. Donc c'est une sculpture qui a une dimension politique certaine, hein, qui vise à souligner un petit peu les qualités du roi et la bienveillance de son règne et de son gouvernement avisé. Donc l'inauguration de cette statue a donné lieu à des grandes fêtes pendant 4 jours, des festivités très très importantes, en présence de la reine Marie Leczinska, donc qui est venue spécialement à Reims pour l'inauguration de la statue. Et donc il y a eu de grandes cérémonies, un feu d'artifice tiré depuis la place d'Erlon, un grand bal donné sur les promenades, 4 jours de festivités dont il nous reste des témoignages, à la fois des gravures assez spectaculaires qu'on peut voir dans l'exposition, qui reprennent un peu les grandes étapes, disons, de cette célébration, et puis divers écrits, divers textes qui ont été rédigés à cette occasion pour témoigner un petit peu de du faste, un petit peu de cette réalisation et des fêtes qu'ont connues la ville de Reims. Et donc la place royale est toujours un élément important du paysage et du patrimoine rémois, qui a permis de reconfigurer un peu le centre-ville, avec notamment la création de nouvelles artères, comme la rue Colbert actuelle, qui met en communication la place royale avec la place du Forum et puis l'hôtel de ville dans son prolongement.
Et on peut observer au sein de l'exposition des gravures,
Des gravures, tout à fait, oui, tout à fait.
De l'époque.
Oui, absolument. Alors toutes ces évolutions, évidemment, sont évoquées dans l'exposition à travers beaucoup de documents graphiques, des dessins originaux, des gravures, des plans. En particulier, la pièce centrale de l'exposition, c'est le plan dit Legendre, donc qui a été commandé à la demande de Jean-Baptiste Legendre, architecte de la Place Royale, et du Conseil de Ville, pour un petit peu résumer les différentes transformations de la ville. Donc c'est un document très spectaculaire qui fait 1,50 m sur 1,20 m à peu près, donc qui présente un plan très détaillé de la ville à l'époque. où on voit justement tous les projets en cours. Et puis autour de ce plan, il y a une quinzaine de médaillons qui représentent les différents monuments, les principaux monuments de la ville. Bien sûr, la cathédrale, Saint-Rémy, l'hôtel de ville, mais aussi des monuments disparus, comme le château des archevêques, donc qui était à la place du Boulingrin actuel et qui a été détruit sur ordre d'Henri IV. L'abbaye Saint-Nicaise aussi, qui a été détruite un peu après la Révolution. Et puis les aménagements en cours à l'époque, donc la création de la place royale, et puis la création des fontaines notamment. Donc ce plan très très détaillé, spectaculaire, est un peu le résumé de toutes les évolutions qui sont évoquées dans l'exposition à travers plus d'une centaine, 120 documents graphiques ou de livres imprimés, des objets aussi prêtés par les musées de Reims. Qui permettent aussi de valoriser nos collections. On a des très riches collections, notamment iconographiques, sur Reims et sur la Champagne.
Donc il y a des documents qui sont conservés ici et qui sont conservés, j'imagine, aussi aux archives départementales.
Alors, 90% des documents qui sont présentés viennent des collections de la bibliothèque, et puis on travaille assez généralement en partenariat avec les autres institutions patrimoniales rémoises. Donc les archives municipales ont prêté un certain nombre de documents, notamment des plans d'arpentage évoquant la création des promenades. Et puis le musée des Beaux-Arts et le musée Le Vergeur nous ont prêté pour l'exposition divers objets, donc une peinture du 19e qui représente la tour Ferry, un buste du chanoine Godinot, des maquettes de la statue de Louis XV sur la place royale, un mascaron en plâtre, donc un moulage d'un des mascarons, donc les bouches qui représentent des animaux et par lequel s'écoule l'eau sur les fontaines, donc qui est un moulage d'un des mascarons de la fontaine des Boucheries, qui permet de se rendre compte un peu de l'échelle des monuments. La dernière partie de l'exposition évoque le développement de la médecine, les progrès de la médecine à cette époque-là, le développement de l'éducation et aussi la vie intellectuelle à Reims à l'époque. Donc développement de la médecine, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la création d'un hôpital dédié aux malades du cancer, financé par le chanoine Godinot, donc le lointain ancêtre de l'Institut Godinot actuel, donc qui consistait en des chambres spécialisées au sein d'un hôpital existant qui était l'hôpital Saint-Marcou, qui était situé entre la cathédrale et Saint-Rémy, au niveau de la rue Chanzy actuelle à peu près. Également à cette époque-là ont été créées de nombreuses écoles publiques, certaines financées du reste par le chanoine Godinot. L'évêque de Pouilly lui-même a mis en place donc une école de dessin et de mathématiques qui était installée à l'hôtel de ville, qui visait surtout à former des dessinateurs qu'on dirait industriels aujourd'hui, disons, et des techniciens pour faciliter le développement de l'industrie et de l'artisanat. Donc il y avait un but utilitaire. Mais cette école de dessin a joué un rôle important puisque elle est la collection qui avait été rassemblée par le premier directeur de cette école, Ferrand de Montelon, puisque l'enseignement du dessin se faisait beaucoup par la copie en fait, des œuvres des maîtres anciens, est à l'origine du premier fonds du musée des Beaux-Arts de Reims. Voilà, en particulier les dessins de Cranach, qui sont un des fleurons du musée, viennent de la collection de Ferrand de Montelon et donc de cette école de dessin créée à cette époque-là, donc qui a joué un rôle intéressant. Et puis, donc l'évêque de Pouilly était lui-même, c'était un intellectuel, en même temps qu'un homme d'action, puisqu'il a eu des responsabilités au sein de la ville. Il a été l'équivalent de maire de Reims pendant une brève période, puisqu'il est mort brutalement, mais il a eu une influence assez importante sur ses contemporains. Il est l'auteur d'un ouvrage de philosophie qui s'appelle « Le traité des sentiments agréables », théorie des sentiments agréables, pardon, qui a connu un certain succès au XVIIIe siècle, qui a été réédité plusieurs fois, et qui est cité dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc qui bénéficiait d'une certaine reconnaissance. L'évêque de Pouilly est un intellectuel important, qui était ami de Voltaire, et on sait que Voltaire est venu plusieurs fois à Reims lui rendre visite. À plusieurs reprises, ils correspondaient également ensemble. L'évêque de Pouilly était également en lien avec Madame du Châtelet, donc qui était une femme vraiment une pionnière, disons, une scientifique de haut niveau, donc un personnage très 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 important de cette époque-là. Et le dernier personnage qui est évoqué dans l'exposition, c'est Madame le Prince de Beaumont, dont le nom est peut-être moins connu aujourd'hui, mais qui est l'auteur notamment de La Belle et la Bête, donc qui a été adapté au cinéma, et puis de ce qui est considéré comme les premiers ouvrages pour la jeunesse, donc Le Magasin des enfants, une des œuvres pionnières de la littérature pour enfants. Voilà. Et Madame le Prince de Beaumont a enseigné plusieurs années à Reims au Collège des Bons Enfants, et donc a des liens très forts avec la ville de Reims. Voilà un petit peu les quelques éléments pour évoquer la riche vie intellectuelle de cette époque-là et la diffusion de l'esprit des Lumières à Reims.
Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, aussi bien pour les grands que pour les plus jeunes.
Oui, bien sûr, on essaye à chaque fois, dans toutes nos expositions, d'adapter un peu le discours pour permettre à un public non spécialiste de pouvoir accéder à l'exposition. Et également, on a des actions particulières en direction des scolaires, évidemment. Donc on leur propose des visites guidées, et puis pour les enfants qui viennent avec leurs parents, on a des livrets pédagogiques qui permettent aussi de découvrir l'exposition sur un mode un peu plus ludique, adapté au jeune public.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici.
Merci à vous.
Une superbe exposition à découvrir donc à la Bibliothèque Carnegie, l'exposition Le Bonheur Public, Vivre à Reims au siècle des Lumières. Attention, c'est jusqu'au 1er août. Comme l'a très bien expliqué notre intervenant Monsieur Gallo, il est possible de venir accompagné de vos enfants qui pourront trouver à l'entrée de l'exposition un chouette feuillet qu'ils pourront remplir avec des questions, avec des jeux, donc n'hésitez plus à vous y rendre et je vous dis à bientôt.